Médias d'Afrique, Alain Focat.
Un mois et demi après la disparition de son président de pair, c'est officiel. Ali Bongo a été investi dimanche dernier candidat officiel et unique du PDG, le principal parti créé par Omar Bongo Ondimba il y a une trentaine d'années. Il essaiera donc pour la présidentielle du 30 août prochain de reconquérir ou de conserver, c'est selon, le fauteuil qu'occupait son papa depuis 41 ans. Une désignation qui relance de plus belle le débat sur l'alternance au Gabon. Surtout après la décision de quelques cadres, quelques membres importants et influents du mouvement de se présenter de leur côté sous une étiquette indépendante. Une multiplication de candidatures qui traduit la crise qui semble désormais ouverte au sein du PDG. Au moment où s'engage ce qui apparaît comme l'élection présidentielle la plus ouverte de l'histoire contemporaine du Gabon, Ali Bongo, qui fait la une de nombreux journaux internationaux depuis le 8 juin dernier et qui n'a finalement pas perpétré le putsch militaire que beaucoup annonçaient ou redoutaient au lendemain de la mort de son papa, a décidé de rompre le silence qu'il s'était imposé pour la période du deuil et a accepté d'être l'invité du jeudi des médias d'Afrique. Et comme le veut la tradition dans cette unique conférence de presse intercontinentale de la radio, il répond aux questions des journalistes qui sont en ligne dans une dizaine de pays du sud du Sahara. Dans cette seconde partie, nous allons commencer par Paris où nous attend J. Rimingono, baptisé certainement à juste titre la langue serpentine, vipérine. Bonjour J.
Bonjour Alain Foucault, bonjour Monsieur Ali Bongo. Chaque vache lèche son veau, dit un proverbe africain. Et on sait qu'au Gabon, on ne gouverne qu'avec la France. Alors, Monsieur Ali Bongo, quel rapport avez-vous avec Paris? Est-ce que vous avez été bien introduit?
Quel rapport ai-je avec Paris? Bon, de toute façon, personnellement, j'ai de bons rapports avec les autorités françaises, ne fût-ce que déjà dans le cadre des fonctions qui sont les miennes. Ministre de la Défense, donc j'ai connu plusieurs ministres de la Défense et la France au niveau de la coopération militaire est donc notre premier partenaire et pour l'instant, ma foi, ça se passe très bien.
Vous avez récemment rencontré le président Sarkozy?
Oui, lorsqu'il est venu à Libreville.
Pas avant? Vous n'aviez pas de contact
Je l'ai rencontré effectivement il y a déjà plus d'un an à Paris, oui.
Donc vous étiez déjà en préparation?
Je l'ai rencontré dans le cadre de mes fonctions, puisqu'il s'agissait aussi de parler avec lui donc de la coopération militaire entre le Gabon et la France et la révision des accords de défense.
Alors, est-ce qu'on peut gouverner au Gabon sans avoir une relation particulière avec les autorités de Paris? On sait que votre papa était très introduit auprès de Paris, on sait comment il est arrivé aux affaires, on sait quel est le lien qui lie Paris et le Gabon. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir une certaine indépendance vis-à-vis des autorités de Paris lorsqu'on est le président du Gabon? Et est-ce que ça va être le cas si vous étiez élu aujourd'hui?
Je ne sais pas s'il faut voir la chose sous l'angle de dire qu'il faut avoir une certaine indépendance. Je crois que dans toute situation, vous êtes obligé d'avoir de bons rapports avec votre premier partenaire. Bon, votre premier partenaire économique, financier, tout ce que vous voulez. Donc vous êtes obligé d'avoir de bons rapports avec ce dernier. Bien, ces rapports, c'est à deux qu'on les définit. S'ils vont être bons ou s'ils vont être mauvais. Mais les rapports, de toute façon, vous les aurez.
Et aujourd'hui, on a vu multiplier les partenariats. Est-ce que Paris reste le principal partenaire, comme vous le dites?
Quel est le pays aujourd'hui qui n'a qu'un partenaire? Vous en connaissez? Aujourd'hui, tout le monde a de partenaires multiples. Et donc le Gabon ne fait pas exception, ni la France d'ailleurs.
J. Rimingono, la deuxième question, si vous en avez.
Deuxième question. Le corbeau ne comprend rien du langage du rossignol, dit un proverbe africain. Alors, Monsieur Ali Bongo, la mauvaise maîtrise ou le manque de maîtrise des langues locales gabonaises n'est-elle pas un réel handicap pour votre campagne?
Qui est le corbeau, qui est le rossignol? J'ai pas très bien compris d'ailleurs à ce niveau-là. Je dirais que là aussi c'est un mauvais procès d'intention que l'on veut bien me faire. Nous avons une cinquantaine de dialectes au Gabon. Bon, à supposer que j'en parle un. Il y a 49 donc je ne parlerai pas. Bon. Donc quelqu'un peut-il être élu simplement parce qu'il parle un dialecte alors qu'il ne va pas en parler 49 autres?
Mais peut-on faire une campagne dans l'arrière-pays sans parler les dialectes lorsque l'on rencontre les électeurs?
Mais là encore,
c'est peut-être aussi un atout.
Là encore une fois, ceux qui avancent certaines choses sont très mal renseignées. Je comprends mon dialecte. Il se trouve que je le parle peu, tout simplement par coquetterie, parce que je n'ai pas un bon accent. Et donc, pour éviter de déclencher l'hilarité, donc je m'abstiens de le parler alors que je le comprends bien.
Mais vous risquez d'être obligé de le parler aujourd'hui, de montrer que vous savez le parler, pour séduire vos électeurs de l'arrière-pays.
Lesquels ?
Mais de la région d'où vous êtes originaire.
Mais la région dont elle est originaire, ce sont encore une fois des gens qui m'ont vu grandir, ils me connaissent. Et donc ce ne sont pas eux qui se sont plaints.
Nous allons nous tourner cette fois-ci du côté du Cameroun. On va juste à côté à Yaoundé, où nous attend Rodrigue Tueno. Bonjour Rodrigue.
Bonjour Alain, bonjour monsieur le ministre. Au lendemain de la mort de votre père, on a beaucoup parlé de l'opposition, voire de la rivalité entre votre sœur Pascaline et vous. Les choses se sont-elles arrangées en famille? Et le beau-frère Tongui a-t-il renoncé à ses ambitions à votre profit?
Bien, là encore, je dirais qu'il ne s'agissait vraiment que de fantasmes de certaines plumes.
Ah oui?
Oui, tout à fait. Mais il semble que, curieusement, c'est toujours en dehors de votre famille que les gens pensent mieux vous connaître. Apparemment, il y a des spécialistes de Pascaline, d'Ali Bongo et autres, donc qui connaissent mieux que nous-mêmes ce qui se passe dans notre famille. Les choses sont très simples. Pascaline, c'est ma sœur. C'est aussi simple que ça. Je pense la connaître un peu mieux que d'autres. Et je suis son frère. Et il n'a jamais été question que nous puissions être divisés.
Même si son mari aurait eu des ambitions d'occuper le fauteuil que vous essayez d'occuper aujourd'hui?
Mais au Gabon, chaque citoyen est libre.
Mais est-ce qu'il en a eu? Est-ce que ça n'a pas été un souci dans la famille à un moment ou à un autre?
Non.
Vous voulez dire que votre beau-frère n'a jamais essayé d'être candidat à la présidentielle et que ça aurait pu apporter certaines dissensions dans la famille, ça aurait pu installer un climat de tension?
Est-ce qu'il vous l'a dit? Vous l'a-t-il dit?
A-t-il besoin de l'avoir dit?
Moi, il ne m'en a jamais parlé. Est-ce qu'il vous l'a dit à vous?
Moi, en tant que journaliste, j'ai pas à répondre. Je vous pose les questions, moi.
Je voudrais savoir à qui l'a-t-il dit. On a tellement affirmé la chose que je voudrais bien savoir à qui l'a-t-il dit.
Il n'en a jamais eu l'intention?
Pas que je sache.
Vous dites pas non, hein?
Mais
parce... pas que je sache.
Mais parce qu'encore une fois, je suis mal placé de venir répondre à la place, donc...
Mais ça se passe en famille, donc s'il en avait eu, vous l'auriez su.
Bah, je crois que je l'aurais su. Je crois que je l'aurais su.
Alors il n'y a jamais eu d'envie de la part du ministre Tongui d'être candidat à la présidentielle?
Mais comme je l'ai dit plus tôt, nous avons des spécialistes qui savent lire et décoder les affaires familiales. Et apparemment, ils ont, une meilleure méthode que moi, de lecture. Alors, je voudrais bien, de temps en temps, qu'ils puissent m'en faire profiter.
Bien. Rodrigue Tueno, vous avez une seconde question.
Une deuxième et dernière question, Alain. Monsieur le ministre, dans votre discours de dimanche, vous avez lancé un appel sous forme de promesse pour une meilleure distribution des richesses nationales et surtout pour une lutte acharnée contre la corruption au Gabon. Pourquoi faudrait-il vous croire lorsqu'on sait que vous êtes un pur produit de cette corruption au Gabon? Avez-vous conscience du fait que lutter contre la corruption consistera pour vous à vous attaquer inévitablement à des dignitaires du système Bongo, des dignitaires qui vous ont certainement aidé?
Bien, je vous remercie pour cette question. Encore que je ne sais pas d'où sort cette affirmation de dire que je suis un pur produit de la corruption. Bien, nous ici au Gabon, nous connaissons notre pays. Nous connaissons ce qui va bien, nous connaissons ce qui ne va pas bien. Sur cette question du partage, je crois que c'est une question qui est essentielle. Voilà pourquoi nous sommes convaincus que ça devrait maintenant pour nous, cette notion de partage doit devenir une vraie religion. Et ce n'est pas simplement des mots en l'air si j'en parle. Encore une fois, si je suis la question qui vient m'être posée et l'affirmation qui a été faite que je suis un pur produit de la corruption, pourquoi diable me mettrais-je dans des difficultés en venant parler de quelque chose comme cela? Je continuerai à profiter du système. Pourquoi viendrais-je dire, moi, qu'il faut arrêter ça?
Ça peut être une promesse électorale.
C'est très dangereux de venir faire des promesses électorales de ce genre. C'est très dangereux. Et je ne suis pas quelqu'un qui avance des choses simplement comme cela. Ceux qui me connaissent savent très bien que je dis ce que je fais. Et je ferai ce que j'ai dit. Si en plus la personne qui a posé cette question me connaissait mieux, elle saurait que là j'ai un bilan notamment au sein du ministère qui est le mien. Et nous sommes le ministère où il y a eu le plus de sanctions. Un, nous allons veiller à ce qu'il y ait une meilleure redistribution des fruits de la croissance. Deux, que nous récompenserons l'effort et le travail bien fait. 3, que nous sanctionnerons. Là où il faut sanctionner. Sans exagération, mais sans faiblesse non plus.
Cette fois-ci, on se tourne du côté du Bénin. On va à Cotonou, on nous attend Benjamin Agon. Bonjour Benjamin.
Bonjour Alain, bonjour Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, dites-nous concrètement quel est votre projet de société aujourd'hui. Que feriez-vous de différent que vous n'ayez concédé à votre père?
Bien, comme je l'ai dit tantôt, je crois que nous partons d'abord de l'héritage. L'héritage que nous a légué le président, dont les points forts sont d'abord l'unité nationale et la paix. Essentiel pour pouvoir connaître un développement du pays. Ensuite, nous avons décidé de pouvoir lancer un certain nombre d'actions, d'abord importantes pour pouvoir faire en sorte que nous puissions connaître une croissance beaucoup plus importante, afin que ces fruits de cette croissance puissent être partagés. Donc en fait, le triptyque, c'est paix, développement, partage. C'est ce que nous souhaitons faire.
Pensez-vous qu'il y a eu beaucoup de partage jusque-là?
Pas assez.
Qu'est-ce qui fait qu'on n'ait pas pu partager jusque-là? Vous étiez dans le système?
Bon, déjà, ces dernières années, nous n'avons pas certainement connu la croissance que nous souhaiterions avoir. Donc, il faut avoir une croissance soutenue pour pouvoir faire une meilleure redistribution. Et donc, c'est ce que nous souhaitons faire. Nous pouvons vous remettre le pays au travail, encourager l'investissement, et que nous puissions effectivement, à partir de ce moment-là, faire un partage plus équitable. Mais il faut savoir que partager, ce n'est pas simplement partager les fruits de la croissance. C'est aussi veiller à ce qu'il y ait une meilleure distribution au niveau des fonctions, au niveau des postes, et que nous l'avons eu par le passé. Donc c'est très important d'associer le plus de gens et puis récompenser l'effort.
On a souvent dit que le Gabon n'avait pas mis beaucoup d'argent dans les infrastructures et quelquefois on montre des chiffres qui sont impressionnants, qu'il y a eu très peu de kilomètres de routes de construite. Est-ce que aujourd'hui vous pensez que vous allez, si vous êtes élu bien sûr, un peu vous occuper de la construction des infrastructures, de toutes ces routes qui manquent au Gabon et qui sont un véritable frein au développement de ce pays?
Il est clair qu'à ce niveau il y a eu un retard de prix. Bon, vous savez quand même que nous sommes un des rares, sinon le seul pays en Afrique à avoir construit lui-même, après indépendance, son chemin de fer. Donc on ne peut quand même pas dire que nous n'avons rien fait. Bien, donc maintenant nous estimons que le chemin de fer était réalisé, hein, c'est un acquis. Aujourd'hui, nous allons consacrer autant d'efforts pour le développement de la route. Et donc nous voulons faire de la route un facteur de développement économique, générateur d'emplois, et aussi donc de revenus.
On va se tourner du côté de Dakar au Sénégal où nous attend Samba Dialimpa Badji d'Océan FM. Bonjour Samba.
Bonjour Alain, bonjour monsieur le ministre d'État. Le PDG vous a choisi comme son candidat, mais il y a quand même d'autres barons du parti qui ont eux aussi fait le choix de se présenter. Ne serait-ce pas le début de la fin du parti? Est-ce que votre candidature n'est pas un passage au forceps qui va tuer le parti créé par votre père?
Je crois qu'il a répondu à cette question. Maintenant, si vous avez envie de dire deux mots.
Non, je pense que là, encore une fois, on a prophétisé un petit peu trop tôt la mort du PDG. Je dis tout simplement qu'il faut savoir, il est important dans un parti qu'il y ait aussi un débat, qui soit des fois vif. Bon, le choc des idées n'a jamais été une menace. Et ça a toujours été comme ça au sein du parti. Donc la multiplicité des candidatures n'est pas du tout le signe de la fin du PDG. Et que dire du nombre de candidats que vous aurez pour l'élection présidentielle? Est-ce que pour autant on dira que c'est la fin du Gabon?
Mais dans le même temps, vous qui vous engagez pour la cohésion, pour l'unité nationale, est-ce que vous n'auriez pas pu rassembler toutes ces personnes qui aujourd'hui s'éloignent de vous?
Mais je vous signale que quand même sur les 10, il y a une grosse majorité qui est donc rassemblée. Et que c'est une minorité qui quitte le parti.
Qui quitte le parti, mais qui peut quand même fragiliser le parti aujourd'hui, dans cette élection où il y a une multiplicité de candidats.
L'avenir nous le dira. Mais je pense que là, encore une fois, le parti est sorti fort, uni, après le congrès extraordinaire que nous venons de tenir.
Alors, il y a une question à laquelle vous n'avez pas répondu au départ entièrement, peut-être parce que la réponse de la première question qu'il a posée était assez longue. Est-ce un handicap ou un avantage de s'appeler Bongo dans cette campagne qui s'engage et qui est très très courte finalement, puisque c'est pour le 30 août?
Tout le monde semble dire que c'est un handicap. Il y a déjà un avantage, c'est qu'en termes de marketing, mon nom est connu. Vous conviendrez avec moi. Donc à partir de ce niveau-là, c'est déjà un avantage. Bon, je crois que la question, c'est toujours la même. Lorsqu'on a un nom connu et que vous héritez, c'est souvent, comme on dit, se faire un prénom. Bon, prénom, je me le suis fait au Gabon. Vous savez, on m'a toujours appelé Monsieur Ali, Yali, Ali Ben. Bon, donc à partir de ce moment-là, donc je crois que mon problème ne venait pas, mon problème ne vient pas à ce niveau. Mon problème vient du fait que les Gabonais m'ont certes vu grandir, ma silhouette est connue, mais ils ne me connaissent pas.
Et pourquoi ?
C'est pour une raison très simple. Dans nos traditions, le père est devant, l'enfant est derrière. Il est quand même difficile, et je crois que ce serait me faire mauvais procès, que de penser que j'aurais pu venir me hisser à son niveau ou me mettre devant. Les mêmes aujourd'hui qui me disent qu'ils ne me connaissent pas auraient été les premiers à me pourfonder en disant « Mais regardez ça, il ne respecte même pas son père ». Non, je crois que j'étais le fils d'un chef d'État. Bien, bon, tout le monde s'efface derrière. Je veux dire, mon père était devant, moi j'étais déjà ministre en plus. J'étais ministre donc par rapport à un chef d'État et j'étais fils par rapport à un père. Donc c'est clair que j'étais derrière. Bon, aujourd'hui, la situation est différente et donc je peux absolument me présenter moi-même et directement parler aux Gabonais, ce que je ne pouvais pas faire avant.
Monsieur le ministre, vous savez très bien que le reproche qui a été fait surtout à votre père, c'était la longévité au pouvoir, 41 ans. Aujourd'hui, vous aspirez à occuper le même fauteuil. Peut-on avoir la certitude que vous n'allez pas rester vous aussi 41 ans aux affaires? Est-ce qu'il peut y avoir une chance d'alternance si vous arrivez au pouvoir? Est-ce que vous y pensez? Est-ce que vous pensez à vous éterniser vous aussi au pouvoir pour faire deux générations de Bongo à la tête du Gabon?
Étant donné que j'en ai déjà 50, plus 40, ça serait quand même un peu difficile. Hein.
On ne sait jamais.
Non, là quand même, non. Ce n'est pas du tout l'objectif qui est le mien. Je pense que je suis pour l'alternance. Mais cette alternance, elle est décidée par le peuple. Ce n'est pas moi qui la décide, c'est le peuple qui décide de l'alternance.
Mais est-ce que vous êtes pour une alternance, pour un nombre limité de mandats?
Je crois que c'est une question qu'il faut regarder calmement et sereinement. Je crois que répondre tout de suite pour vous dire, parce que c'est ce que les gens veulent entendre, oui, je suis d'accord. Moi, je ne veux pas être comme ceux qui se précipitent, parce que c'est dans l'air du temps de dire qu'on est pour les limitations de mandat, et puis après, demain, ils vont commencer à se gratter la tête, comment je peux tripatouiller la Constitution pour pouvoir changer cela. Non, je dis que c'est un problème qui est très sérieux et qui doit être donc regardé en profondeur. Et puis, bon, voir quels sont les axes de réflexion. Une réflexion serait de dire que, bon, si on parle de limite de mandat, c'est peut-être tous les mandats qu'il faut limiter à ce moment-là. Pourquoi seulement certains et pas d'autres?
Mais vous, dans votre cas, si vous aspirez à rester combien de temps aux affaires si vous y arriviez?
C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Dieu seul sait. Mais encore une fois, je peux vous dire que je ne vais pas m'éterniser au pouvoir pour le plaisir de m'éterniser au pouvoir.
Merci beaucoup, monsieur le ministre, de nous avoir reçus. Je ne sais pas si je dois dire monsieur le ministre ou le candidat, monsieur Ali Bongo. Merci de nous avoir reçus en tout cas. Nous arrivons malheureusement au terme de ce magazine qui nous a permis, monsieur le ministre, de mieux vous connaître. Merci de nous avoir si bien accompagnés. Média d'Afrique, c'est terminé pour aujourd'hui et pour la semaine, puisque nous avons rendez-vous demain pour les Archives d'Afrique, consacrées cette semaine à l'ancien premier ministre congolais, Patrice Emery Lumumba, dont l'assassinat en 1961, ordonné par Washington et Bruxelles, continue de susciter de vives réactions dans les milieux intellectuels et estudiantins au sud du Sahara. La mise en onde de ce magazine était assurée aujourd'hui exceptionnellement par Mamadou Moumouni, Delphine Michaud, Foukou Nguyen et Alain Foka. Nous vous donnons donc rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Dans un petit instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À demain.
Vous souhaitez réécouter Médias d'Afrique? Rendez-vous sur notre site internet rfi.fr.